Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Mon art, mon engagement, pionnier, avant-gardiste, alerteur, historiquement, les artistes ont souvent joué un rôle dans l'évolution de nos sociétés. Et sur le terrain de l'environnement, ils ne sont pas absents. Leur art rejoint alors leur engagement. Et en citoyens impliqués, ils mettent à leur manière leur talent au service de la planète. Il en va ainsi de nos deux invités qui ont commencé très tôt à exposer leurs idées et qui continuent aujourd'hui à prendre part au mouvement. Bonjour Colline Serrault.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, metteur en scène, auteur, comédienne, clown trapéziste, musicienne, d'autres casquettes peut-être, on va le découvrir dans l'émission. Votre inspiration vient en partie de la nature et vous nous livrez des clés de compréhension dans votre dernier livre. Hashtag Colline Serrault, un livre paru chez Actes Sud et avec nous aussi Pierre Kroll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dessinateur de presse, attitré donc du quotidien belge Le Soir et puis vous travaillez aussi pour la RTBF, il faut le préciser. Vous êtes humoriste, architecte de formation et licencié en sciences de l'environnement. Et vous faites paraître aux éditions Les Arènes un beau livre avec nombre de vos dessins. Ce livre est intitulé « Des signes qui ne trompent pas ». Un homme, une femme, deux artistes pour qui l'imaginaire, les larmes et le rire sont aussi des armes pour dire le monde. Et aujourd'hui, à mi-parcours, c'est Simon Roger qui entrera dans la danse pour le regard de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Bienvenue à tous dans notre émission, toujours préparée avec soin par Anaï Morales, avec la petite équipe, Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang, réalisée l'émission par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui, Marie-Claire Oumabadi.
Il y a même eu des ingénieurs qui ont créé des races de poulets sans plumes parce qu'ils avaient calculé qu'il y avait des pertes d'azote avec les plumes, que ça consommait de l'azote et de la potasse. Donc ils ont fait des variétés de poulets sans plumes puis ils se sont rendus compte que les poulets sans plumes, ils avaient froid, fallait chauffer les bâtiments et que ça coûtait plus cher que l'azote. Donc finalement, ils ont remis les plumes sur les poulets. On voyait des trucs complètement fous, quoi. Des gars qui fabriquaient des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. Ils ont essayé de faire des œufs carrés, ils y sont pas arrivés parce que l'œuf est très embêtant, parce que l'œuf est dans une enveloppe qu'on appelle hyperboloïde de compensation qui prend beaucoup de place. Et on aimerait bien que les poules pondent des œufs carrés, ce serait quand même plus pratique à ranger. Mais là, ils y sont pas arrivés. Mais je voyais dans cette agronomie le délire, quoi. C'est des hommes fous.
C'était les propos de Claude Bourguignon, agronome. Il parlait de ses recherches menées à l'INRA quand il était à l'INRA avec sa femme Lydia. Et puis, eh bien, voyant ce type de recherche, il avait décidé d'en sortir. Il en était parti il y a quelques années. Colline Serrault, c'est un extrait de votre film « Solutions locales pour un désordre global ». Aujourd'hui, parce que ce film, c'était en 2010, hein, si je ne m'abuse. Oui. Aujourd'hui, la société est toujours malade, selon vous ?
Oui, ça s'arrange. Pas tellement, non. Claude et Lydia Bourguignon devraient depuis très longtemps avoir eu le prix Nobel. Ils ne l'auront jamais. Et ce sont des très 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 grands scientifiques et des très grands agronomes. Vous avez bien vu que les accords de Paris ne sont pas respectés. L'Amérique en est sortie. Donc on va à peu près dans le mur, quoi. Bon, il va falloir s'organiser autrement et puis essayer de préparer la société future, je pense, oui. Oui, non, les solutions, elles ne manquent pas, mais il faut changer le paradigme, il faut changer le système, quoi. Le système, là, bon, en gros, là, si on résume très, très brièvement, c'est quand il y a des profits, c'est pour eux, et quand il y a des pertes, c'est socialisé, quoi. On privatise les profits, on socialise les pertes. Donc, de toute façon, dans ce paradigme-là, on est toujours perdant. La masse est perdante et quelques-uns sont très, très gagnants. On n'en sort pas de ça, on n'en sortira pas. Et en plus de ça, il y a derrière ce paradigme-là, le paradigme du patriarcat, qui est, dont le credo est, le corps de la femme, de l'enfant, le corps peut m'appartenir et je peux le détruire, de la même façon je peux détruire la terre. Donc tant qu'on ne remettra pas en question et le paradigme du capitalisme financier et celui du patriarcat, ben on va piétiner avec la brouette, quoi.
On va y revenir sur cette notion de patriarcat. Pierre Kroll, quand vous entendez que des chercheurs ont travaillé à un moment pour faire en sorte qu'on aboutisse à des œufs carrés, à des tomates carrées pour mieux les ranger, ça vous fait quoi ?
Bah, on dirait de la caricature, hein. Moi, j'aurais pu l'inventer dans les petits dessins, j'en invente d'ailleurs des pareils. Oui, c'est assez effrayant, mais je trouve que ça renvoie à une question dans laquelle on peut peut-être trouver un petit peu d'espoir, le seul qu'on peut trouver, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas fait ça pour faire du mal. On est devant beaucoup d'effets pervers, d'inventions, de progrès qu'on a cru à un moment positif. On n'a pas cherché. Il n'y a pas des gens qui se sont mis autour d'une table en disant comment est-ce qu'on va foutre en l'air cette planète pour emmerder Pierre Kroll, Colline Serrault et tous nos gens du futur. Non, beaucoup se sont dit on va essayer de produire plus pour nourrir l'humanité, pour gagner de l'argent, évidemment. Là, un truc vraiment coupable, c'est le court terme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, cyniquement, se disent bah ouais, si tout est foutu après moi, c'est pas grave tant que moi j'en ai profité. Ça, c'est vrai que que c'est grave. Mais vous voyez ce que je veux dire avec cette question de on n'a pas cherché volontairement tout le temps à faire le mal. On découvre les effets pervers. Et ça, on peut se demander s'il n'y a pas quand même un petit espoir. Je suis pas un scientiste, hein, mais aussi chez les scientifiques, de nous amener aussi des solutions peut-être.
Alors tous les deux, vous mettez votre art au service justement de cet engagement de la planète, où vous tentez par vos moyens de sensibiliser, d'interpeller. Est-ce que vous avez eu, et l'un et l'autre, une enfance inspirante aussi peut-être, qui explique en partie votre engagement, puis surtout votre rapport à la nature, à la Terre, Colline Serrault?
Oui, bien sûr. J'ai, disait Newton, on a été élevés enfin, sur les épaules de géants, mais de femmes, moi, géantes, qui... dans une école où j'étais tout le temps libre et tout le temps pieds nus dans la montagne, et où on était en contact avec la nature d'une manière très... qui était déjà dans les années 40, moi je suis née en 47, mais déjà bien avant, elles étaient Steiner, toutes les grandes méthodes d'éducation, elles étaient sur l'homéopathie, le jeûne, et les gosses étaient soignés comme ça, donc c'était des pionnières, elles étaient très très en avance. Et moi j'ai bénéficié de ça, et de cette liberté, puis cette... La liberté, c'est pas seulement la liberté, c'est une liberté qui est aussi encadrée et qui est une liberté où on cherche, doit chercher, lire, comprendre, se documenter. On n'est pas juste comme ça, béat et les enfants rois. Non, on a l'idée qu'il y a des responsabilités. Donc c'est vrai que ce contact-là, ça m'a beaucoup beaucoup aidé, quoi.
Donc c'était dans la Drôme, on peut le dire.
Ça, c'est dans la Drôme. Ce que je voudrais juste dire à propos de ce que vous avez dit, Pierre, c'est que il y a quand même, et même s'il n'y a pas eu des pensées machiavéliques, il y a eu après-guerre, au moment de la Révolution verte, au moment où toute cette agression contre la Terre a commencé, il y a eu un besoin de recycler toute l'industrie de guerre. C'est-à-dire les chars sont devenus les tracteurs, les nitrates sont devenus, qui étaient les explosifs, sont devenus les engrais, et les gaz moutarde sont devenus les pesticides. Je veux dire, il y a quand même eu une espèce de continuité, faire la guerre, puis faire la guerre à la Terre, quoi, faire la guerre aux vivants, au lieu de comprendre comment fonctionnait la Terre, comment la microbiologie, comment tout le système gratuit qui se nourrit de lui-même, comment il marche très bien et qu'il n'a pas besoin de tout ça. Et comment on a nourri l'humanité depuis le début qu'elle existe avec ça. Donc je veux dire, il y a quand même eu... c'était pas juste dessein. Je dirais plutôt que les agriculteurs, il faut pas les condamner. Parce que eux ont été emportés dans un mouvement de après-guerre, tout le monde avait faim, il fallait produire plus vite, etc. Et on les a mis dans des emprunts, parce que ça arrangeait qui? Les banques. On les a asphyxiés comme ça, et ils ont cru que c'était bien. Et donc c'est pas eux qu'il faut stigmatiser. Mais le système derrière eux qui a profité de tout ça, j'ai pas tellement de tendresse pour eux, moi.
Hein. Ah, mais j'ai pas de tendresse non plus. Hein. Je veux dire, beaucoup de choses proviennent d'erreurs fondamentales. Mais la bêtise est une grosse erreur, hein. Mais pas toujours d'une espèce de méchanceté par rapport à la Terre, si vous voulez. Mais il y en a eu, bien sûr, il y en a eu aussi. Mon père était agronome tropical. Je suis né au Congo belge. Hein. Enfin, il n'est plus belge pour très longtemps. Hein. Il est encore resté 2 ans. Je suis rentré très petit. Et mon père cultivait pour une multinationale, Unilever, pour ne pas la citer, du caoutchouc. Bon, pas comme du temps de Léopold II, en coupant les mains des Congolais. Hein. C'était quand même déjà un peu mieux. Et il représentait très bien cette époque-là. C'est-à-dire, c'était effectivement quelque part dans l'industrie coloniale. Il n'était pas colon dans l'âme. Il était véritablement pas raciste. Il n'aimait pas l'industrie coloniale. Il travaillait, c'était un broussard, quoi. Il était dans la brousse, là, avec les travailleurs qui n'étaient pas les siens. Bon. Mais lui, il croyait que tout ce qu'il faisait était bien. Il aimait profondément la nature. Et quand on parlait d'écologie à l'époque, il s'est un peu moqué, parce que mon père, c'était plutôt l'époque où on parle de conservation de la nature. Il était prêt à se battre beaucoup pour la conservation de la nature. L'écologie, il me disait toujours, j'ai fait donc une licence en sciences de l'environnement, oui. Il me disait toujours, l'homme trouve toujours une solution à temps. Tu vas voir, il trouve toujours une solution à temps. Je dis, papa, c'est pas vrai, l'écologie nous apprend le contraire. Il y a des biotopes qui sont foutus, il faut pas aller très loin, hein. La Corse, la Sardaigne et tout, c'est pas d'une très très grande biodiversité, parce que ça a été foutu en l'air par les chèvres, par des choses comme ça. Et maintenant, c'est à l'échelle de la planète. Donc on atteint, on le voit maintenant très bien avec le climat, certains points de non-retour. On pourra pas revenir à la situation avant. Et je lui expliquais ça. Et donc, vous voyez, il a représenté vraiment, vraiment son époque. Et c'était pourtant un homme instruit, aimant profondément la nature. Mais il a fallu chaque fois le temps qu'il est mort il y a 10 ans maintenant. On parlait déjà du réchauffement climatique. Il le contestait pas, hein. Mais je veux dire, il a chaque fois fallu qu'il vive l'époque et qu'on le lui explique.
Alors, Pierre Kroll, juste peut-être un instant sur votre enfance. Donc, il y a eu le Congo belge. Mais sinon, est-ce qu'on peut dire que vous êtes plutôt un enfant citadin, même cette licence? Vous étiez tout seul, hein, quasiment en cours.
La licence en environnement, c'était moi, j'ai étudié l'architecture, et puis vous savez, c'est un peu les poupées russes, quoi. Après l'architecture, on s'intéresse parfois à l'urbanisme, après l'urbanisme, à l'environnement, et voilà, c'est allé un peu comme ça. Et on voyait arriver les premiers écologistes politique, entre autres. C'est en Belgique qu'on a eu les premiers députés écologistes. Je les ai vus arriver au Parlement à vélo, d'ailleurs. Tout le monde pense à l'époque que c'était pour protester contre le luxe des autres élus. C'était aussi pour montrer qu'on pouvait se déplacer à vélo, tout bêtement. Bon. Et moi, sortant de mes études, ce que je savais faire, c'était étudier. Et je me suis dit, tant qu'à parler d'écologie, je voudrais bien apprendre un peu ce que c'est la science de l'écologie. Le rapport Meadows, Carson, avant oui, ça, Rachel etc. Carson, toutes les grandes étapes de l'écologie.
Vous n'étiez pas très nombreux dans cette licence.
Non, je crois qu'on était trois, je crois, à l'époque. Non. Et les gens qui faisaient ça, c'était dans un but assez précis de s'occuper de l'épuration des eaux, par exemple, des choses comme ça. Moi, c'était pour continuer à étudier, c'est tout.
Vous parliez des mentors. On écoute un de vos mentors. Hein, c'était René Dumont. Écoutez-le, c'était sur France Inter dans l'émission Radioscopie de Jacques Chancel le 2 février 1977.
Si j'étais pessimiste, si j'estimais que le monde est perdu, ben je pourrais me reposer en disant, bon, l'affaire est foutue.
Rien à faire.
Rien à faire, on va se reposer, après nous le déluge, bon, dans 30 ans, je n'y serai plus, par conséquent, ça ne me concerne pas. Mais j'estime que je suis responsable de l'état dans lequel nous laissons le monde aux générations futures qui nous suivent. Je suis vis-à-vis d'eux responsable, donc nous devons transmettre, nous les vieux, nous devons transmettre à la génération qui nous suit un monde vivable et un monde qui ait des chances de prolonger la survie de l'humanité pendant longtemps. On pourrait avoir un monde sans humanité, un monde, une planète peuplée d'insectes, eux ne disparaîtront, seront plus résistants aux pollutions, donc disparaîtront après l'homme seulement. Mais ce n'est tout de même pas voir l'aventure de l'humanité, l'aventure extraordinaire de l'humanité, finir comme ça, ce serait tout de même malheureux.
1977, il y a plus de 40 ans, c'est ce qu'on entend aujourd'hui. Colline Serrault.
Oui, j'adore parce qu'il est encore dans le paradigme de dire que l'humanité, c'est l'aboutissement suprême d'une évolution. Ça, moi, ça me fait un peu rire. Mais c'est un type formidable. Il est génial. Il a été un pionnier, puis il s'est battu avec cette espèce de d'éthique formidable. Vous savez, si l'humanité disparaissait, franchement, tout le monde ferait ouf. Hein. Les plantes, les animaux, ça dérangerait qui, franchement? Personne. La Terre continuera à tourner. Nous, on est arrivés après tout le monde. On est les derniers arrivés. On est à peu près au stade du nourrisson qui a même pas encore coupé le cordon. On est bêta et totalement dans l'autodestruction. Alors, quand on vient nous parler des merveilleuses avancées de l'humanité, moi, ça me fait juste rigoler. On est très, très loin de l'avancée de l'organisation sociale des arbres. Je ne sais pas si vous avez lu le livre La vie secrète des arbres. Oui. On est très, très, très loin de l'avancée
de Peter Wolben
sociale des insectes. On ne sait même pas ce qu'il y a sous nos pieds. Les millions d'animaux et les milliers d'espèces qu'on n'a jamais étudiées.
Et les interactions aussi. Et l'entraide.
L'entraide entre le monde animal, le monde minéral, parce que la microbiologie des sols, elle sert à ça aussi. Elle sert à ramener de la roche primaire, ce qui va nourrir et les animaux, puis les humains et surtout les plantes. Alors, si l'humain est dégradateur comme ça, bah, qui crève, quoi? C'est pas très grave. C'est grave pour nous. Bon. Mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, il y a une très grande capacité d'adaptation dans l'humain. Et il y a maintenant beaucoup de gens qui réfléchissent, qui, pas encore assez théoriquement, à mon avis, il faut la nommer, l'organiser. La société future, il faut y réfléchir avec des outils théoriques aussi. Garder ce qu'il y a de bien dans l'organisation qui existe là, dans une certaine forme de démocratie. Retrouver, chercher quelle démocratie on veut, comment s'organiser, etc. Et c'est pas encore mûr, ça. Mais si ça collapsait avant, ce que je ne sais pas, parce que on a des belles ressources vitales aussi, nous. Si ça collapsait avant, ce serait pas non plus la fin du monde, d'aucun monde.
Hein. Voilà. Ne
soyons pas centristes, anthropocentristes et anthropo- et auto-glorifiants. Quoi.
Soyons humbles par rapport aux autres espèces vivantes, c'est ce que vous nous dites.
Ça m'a frappé très très petit. Hein. Parce que très jeune, avec une éducation un peu chrétienne, de catéchisme, etc., mais je crois que toutes les religions font pareil, à peu près. L'homme, il est au centre et il est au-dessus, hein, c'est l'aboutissement de tout ça. Et moi, je disais toujours, pourquoi les méduses, elles sont encore là? Si c'est un truc de merde qui a été inventé, qui marche pas, qui sert à rien, pourquoi il est toujours là? Parce que, je sais pas, une vache, c'est peut-être pour nous donner du lait, mais la méduse, franchement, elle nous sert à rien, hein. Et c'est toujours là. Donc, apparemment, c'est que tout ça n'est pas raté. Tout est réussi à sa manière. Et nous, à la nôtre, quoi. Et vous voyez aussi ces tableaux de l'évolution, ils partent toujours du fond de l'eau, hein, et puis ils finissent toujours en l'air. Mais alors, attendez, le plus évolué, c'est l'oiseau et c'est le moustique, c'est pas nous, parce que nous, il nous faut construire un avion et tout pour y arriver. Hein.
Oui.
Non, ça, ce relativisme, je l'ai vraiment tout
à fait. Et puis, il y a l'histoire des gènes aussi, comme dit Bourguignon, l'orge, qui est un végétal, a juste 10 fois plus de gènes que nous. C'est très humiliant hein, pour l'hubris humain. On a très peu de gènes, nous. On n'est pas très évolué, quoi.
Moi, ce qu'on ressent, quand même, par rapport aussi aux propos de René Dumont qu'on entendait, et donc qui remontait au mois de février 1977, donc je disais plus de 40 ans, c'est aussi ce parcours long. Et c'est ce que l'on perçoit à travers vos parcours, hein, tous les deux, votre travail hein, sur ces enjeux environnementaux planétaires aussi. C'est ce temps qui s'écoule. Est-ce que pour vous, c'est déprimant, c'est irritant, ou vous y voyez quand même une évolution pour faire changer les choses et prendre conscience aussi des besoins de la planète?
Alors oui, c'est irritant, c'est énervant. Maintenant, moi, j'ai peut-être une nature de quelqu'un de nerveux, d'impatient, qui veut toujours tout très vite. Mais mon livre, c'est ça. C'est pas que je veux absolument en parler, hein. Mais je veux dire, la seule raison d'avoir fait ça, c'est pas surfer sur la mode maintenant de l'environnement. J'ai beaucoup de dessins.
Les dessins
sur
remontent aux années 80 pour les plus anciens et
jusqu'à aujourd'hui.
Je me suis rendu compte
qu'il y a des trucs que j'ai dessinés il y a 40 ans qui sont exactement tout à fait aujourd'hui. Le réchauffement climatique, j'avoue qu'on n'en parlait pas vraiment à cette époque-là, mais les plastiques dans les océans, enfin, dans les années 80, on disait, mais il faut arrêter de produire autant de plastique. On a absolument rien fait. Et c'est pas demain, hein, parce que je suis rentré encore l'autre jour dans un magasin de jouets de je sais quelle marque. Si vous arrêtez les plastiques, vous pouvez fermer le magasin. Tout est en plastique, à part les caps là pour faire trois briques de bois. Là. Bon. Donc, ça, c'est effectivement très énervant. Moi, j'ai travaillé un peu dans l'urbanisme, un petit peu, dans ma ville, Liège, qui n'est pas une très grande ville, mais qui n'est pas toute petite. Vous savez, dans les années 80, quelle était la politique pour le vélo ? C'était pas de ne rien faire, c'était de dissuader les gens de faire du vélo. Le chef de la police me disait, mais il faut forcer les gens à ne pas faire de vélo parce que c'est dangereux pour eux. De nouveau, ils voulaient faire le bien. Hein. Bon, il faut pas que les gens roulent à vélo parce qu'ils vont se casser la gueule, ils vont se faire tuer par une bagnole, il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Donc le temps qu'on a perdu dans beaucoup de domaines, les plastiques, on aurait pu arrêter ça il y a 30, 40 ans. Ça, c'est effectivement très énervant. Maintenant, ça peut être aussi, je cherche tout le temps la petite source d'optimisme. Vous connaissez cette phrase, je ne sais pas quel malheureux penseur a eu ça, un optimiste c'est quelqu'un à qui vous avez mal expliqué. Bon, j'essaie de ne pas trop y croire. Mais, donc les petites choses d'optimisme, c'est peut-être de se dire, on a perdu beaucoup de temps, mais quand on y va, on a l'air d'y aller quand même vite là maintenant. En tout cas en parole, hein, on ne parle plus que de ça,
oui.
Il ne peut pas ne rien en sortir.
On peut dire, hein, Pierre Kroll, que vous, c'est sans jugement, pas de catastrophisme, c'est un peu la règle que vous êtes donnée dans votre travail.
Ah, mais certains dessins sont catastrophiques. Au départ, je suis un dessinateur de presse, donc je suis l'actualité. Donc beaucoup de ces dessins, en fait, ils parlent d'une actualité qui s'est passée. La marée noire, la Moco Cadiz, ou je sais pas quoi, soit aujourd'hui Tchernobyl, ou je sais pas. Donc souvent, ils sont le regard sur un événement qui vient se passer. Ils ne sont pas réfléchis pour être, après, le morceau de toute une théorie ou d'un plaidoyer. Certains dessins sont très engagés, très pessimistes, certains beaucoup moins. Moi, je suis jamais qu'un dessinateur un peu comique. Donc j'apporte ma toute petite pierre à l'édifice, qui est celle de ce que moi je sais faire. Je sais pas si la trapéziste peut faire quelque chose, la comédienne, la metteur en scène, l'écrivain le fait, mais voilà, on fait chacun sa petite pierre à l'édifice. Donc mon livre est à la fois engagé, à la fois très modeste. Moi je dis juste, regardez tout ça à travers ma façon de le voir, c'est un accusé de réception, vous en prenez ce que vous voulez, je suis sûr qu'à la fin on pense la même chose.
Colline Serrault, votre position à vous, hein, dans ce que vous avez fait, parce qu'il faut rappeler aussi que votre premier film a engagé sur ce terrain-là, c'était La Belle Verte, un film où il y avait eu avant déjà, mais en tout cas c'est celui qui marque un moment en 1996.
Oui, il y a déjà pas mal de trucs dans la crise.
Oui, aussi.
Sur Kousmine, sur l'alimentation, il y a eu, même dans Trois hommes et un couffin, la critique du, pour soigner les gosses, un grand coup de Fénergan et tout va bien. Il y avait déjà une vision de la santé dans tous ces films-là. Ce que j'ai bien aimé dans la réponse de Pierre, c'est cette modestie. Il y a les politiques, il y a les scientifiques, et chacun fait son boulot à sa façon. Et puis après, il y a ceux qui ont vraiment les mains dans le cambouis, qui doivent gérer leur boulot d'agriculteur, leur boulot d'organisateur des classes, des cantines, etc. Et nous, on est un épiphénomène autour de ça, qui peut avoir son importance. Mais il faut pas qu'on ait d'arrogance, ni de jugement, en effet, ni qu'on se croit au-dessus de ce que font vraiment les gens. Parce que ceux qui sont vraiment dans la terre, avec les soucis de fric, les soucis de pollution, sur eux-mêmes, hein, ils sont presque tous très très atteints, c'est eux qui vont changer les choses, c'est pas moi. Moi je peux contribuer, et modestement. Mais je pense que les politiques, là, vraiment sont très très responsables, parce que, bon, vous parlez de certaines mesures qu'on aurait pu prendre sur les plastiques et sur d'autres choses, mais on aurait pu prendre aussi, il y a déjà des années, une loi simple et qui aurait complètement bouleversé la vision de l'agriculture, c'est de dire, à partir de dans 2 ans ou 3 ans, toute la restauration collective de ce pays sera en bio, point barre, et locale. Et pour ça, réquisitionner des terres, il y en a plein, il ne faut pas tellement de terres pour nourrir des gens en maraîchage bio, hein, pas du tout. Non, alors à l'Élysée, moi je sais bien qu'ils mangent bio, ils mangent très bien, hein, les restaurants de l'Élysée, de l'Assemblée nationale sont excellents. Mais quid de nos enfants, des malades, des anciens? Enfin, c'est des millions et des millions de repas, tous les jours. Et ça, c'est aussi un marché monumental qu'on pourrait créer. Mais Non, on est quand même en train d'obéir au le sacro-saint lobby de la pétrochimie, quoi.
C'est ce que vous avez voulu montrer grandement dans votre film « Solutions locales pour un désordre global ». Je vous propose d'écouter les propos justement de Dominique Guillet, fondateur de Cocopelli, l'association de sauvegarde des semences.
Tu enlèves la chimie, les fertilisants de synthèse de certaines régions françaises, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe rien, parce que la terre, elle est morte. Donc ça veut dire qu'on vit pas dans un désert comme le Sahel, mais on vit dans un désert virtuel. Parce que la terre, elle a déjà tout donné, puis elle est brûlée, elle est morte. Elle ne donnera plus rien. Elle ne donne que parce qu'on met du fertilisant de synthèse. Donc en fait, on vit dans un désert, mais c'est un désert virtuel. Mais un jour, ce sera peut-être un désert total, surtout si le pétrole continue de monter, puisque toute l'agriculture chimique, elle est basée sur le pétrole.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Constat très dur, hein, la terre est morte. C'est-à-dire que là, si on ne faisait rien pour l'activer, ce serait le désert, quoi.
Oui, en Beauce et en Brie, oui. Ah oui, 100%. Hein. Et je ne vous dis pas toute l'agriculture américaine et l'agriculture espagnole. C'est de la pétrochimie, c'est que ça. Mais la terre est résiliente, la terre peut... Si vous prenez un pays comme la Beauce, vous enlevez demain la chimie, bon, c'est fini, il n'y a plus rien, c'est dur comme du béton, ça pue, enfin c'est... Mais ça peut, il y a des plantes qui régénèrent les terres, il y a des tas de techniques écologiques qui peuvent très bien marcher. Ça prendra quand même, si on voulait redonner de la vie à la Beauce ou à la Brie, il faut compter 20, 25 ans quand même, hein. Et entre-temps, ça donnera rien de bio. Hein. C'est des déserts. C'est des grandes terres plates. C'était les plus belles terres d'Europe. Hein. On était le grenier de l'Europe, nous. Hein. Et bizarrement, maintenant, ceux qui sont les régions comme l'Ardèche, la Drôme, qui sont des régions très montagneuses où vous pouvez pas faire de l'agriculture intensive, mais que de l'extensive, et ben c'est là où finalement, sur des petites surfaces et avec des agriculteurs plus conscients, là vous avez le vivier de tout ce qui se fait de mieux en matière de bio. Hein. Et donc c'est cette perversion qui a fait que les plus belles terres de notre pays sont mortes. C'est dur, hein.
Mais des agronomes comme Lydia et Claude Bourguignon, hein, qu'on retrouve dans votre film, et qui continuent à œuvrer auprès des agriculteurs sur le terrain aujourd'hui, des personnes comme eux peuvent quand même essayer de conseiller pour restaurer ces terres-là.
Le jour où ils décideront d'arrêter les subventions à des gens qui ont des milliers d'hectares, qui sont seuls, qui vivent dans des cabines avec des trucs pour rien entendre et qui touchent de quoi acheter 4 Mercedes par an, ce jour où on décidera d'arrêter de les subventionner et de transformer l'agriculture, là, Lydia et Claude Bourguignon, ils ont plein de techniques. Mais ce jour n'est pas arrivé.
Pierre Kroll, j'imagine que ce qui se passe aussi à Bruxelles, les discussions, les négociations qui auront lieu sur la PAC, vous devez suivre aussi tout ça, ne serait-ce que pour l'actualité et vos dessins.
Oui, je suis pas un grand spécialiste ni de l'agriculture, ni de sa politique, mais ce qui est très vrai, évidemment, on l'a évoqué, c'est, ça a l'air facile de dire c'est la faute aux politiques, on dit ça pour tout, bon, c'est pas toujours évident de faire de la politique, mais c'est quand même vrai que quand on dit à chacun son métier, les artistes le leur, etc., c'est quoi le métier d'un politique? C'est de prendre des décisions et de fabriquer une espèce de contagion. Les nationalistes ont très bien compris ça. Il faut leur contagion, c'est dire qu'on est les meilleurs, qu'on est meilleur que le pays à côté, etc. Bon, la contagion du respect de l'environnement, du changement de paradigme, etc., elle devrait être prise en compte par tout le monde. On a la chance de pouvoir voter, nous, dans nos pays, ben, il faut le faire convenablement. Parce que les politiques, je les plains parfois, eux, ils ont peur de ne pas être réélus. Si après, ils vont prendre des mesures comme ça contre envoyer un lobby à la porte de leur cabinet, tout, ben après, il va se venger, je ne sais pas quoi. Donc, c'est nous qui devons les rassurer en disant, prenez des décisions difficiles, on est avec vous. Et toutes ces marches-là, on en a eu à Bruxelles, à Paris et tout, c'est ça qu'elles disent. Hein, c'est pas difficile à lire. Ce sont des jeunes qui disent, ben nous, on vous en voudra pas si vous prenez des mesures qui, même, nous emmerde un peu. Je crois que c'est ça. Hein.
Pour le moment, on observe tout de même que les politiques, leur métier, c'est leur cœur de métier, leur cœur, et puis l'entourage, et puis la chair, et puis la peau de leur métier, c'est d'être réélu.
Ben voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire.
C'est pratiquement exclusivement ça, quand même.
Alors l'humour, vous l'utilisez, Pierre Kroll. Vous faites au-delà des dessins, vous jouez aussi hein, sur scène. C'est une partie de votre travail. C'est un engagement face à un public qui remonte à quand?
Bon, ça y a seulement 2-3 ans. C'est plutôt raconter mon métier. Ça, on va dévier si on part vers là. C'est suite à ce qui est arrivé. Je ne dois pas rappeler à Charlie Hebdo. En fait, toutes les questions importantes autour du métier de dessinateur signature de presse, et plutôt que de le raconter, le re-raconter dans des émissions de radio, formidable ou pas, où on m'a amené à le faire, je me suis dit, je vais raconter ça sur scène, je vais le faire 10 fois dans 10 villes de mon pays, la Belgique, et j'aurai fini avec les gens que ça intéresse, et en fait, je dois en être à 80, ça se dessine un peu pour le théâtre du Rond-Point à Paris, enfin, apparemment, ça intéresse de continuer à en parler. Il y a un peu d'environnement dedans, pas trop, mais en tout cas, j'explique la force quand même de l'humour, pas trop industrialisé, l'humour comme tout le monde peut en avoir, pour ne pas prendre les choses trop de face. Et j'ai été chercher, je l'évoque dans le livre, là, j'ai eu un petit échange de courrier avec Michel Serres, parce qu'il disait ça aussi, donc ça aide un petit dessinateur quand un grand philosophe dit la même chose, c'est que si on ne dit les choses que de manière catastrophiste, que de manière culpabilisatrice, etc., on va rien faire, parce qu'on va se défendre contre la culpabilité, on va se déprimer complètement et alors on fait plus rien, donc il faut prendre les choses avec un peu d'humour. Vous l'avez fait, comme vous avez dit, fortement, quand vous l'avez dit, si l'humanité disparaissait totalement, ben tant pis. C'est vachement fort comme humour.
Voilà. La phrase de Michel Serres, c'est la suivante, hein. S'il y a une voix pour un signal moral, c'est le rire. Colline Serrault.
Ah oui, c'est une Kalachnikov, le rire. C'est une Kalachnikov qui ne tue pas, mais qui est très puissante. C'est une arme puissante. Et puis, c'est une façon de voir le monde aussi. C'est une façon de dépasser le désespoir, l'humour. C'est je ne suis pas le centre. Ce qui m'arrive n'est pas si grave. Relions-nous à ce qui arrive aux autres. Regardons-le avec un regard à la fois bienveillant et quand même de l'autodérision. Et avec ça, on se soigne et on soigne les autres. Et en plus, on peut dire, parce que l'humour, c'est le plaisir aussi, et donc on peut dire des choses qui sont peut-être dures à avaler et qui font quand même plaisir. Et le plaisir dans nos métiers artistiques, parce qu'un dessinateur d'humour, c'est un artiste, et tout ça, c'est des grands artistes qui sont extrêmement virtuoses, et bien par nos métiers et par le plaisir qu'on doit aussi donner, on peut être autrement que dans l'ordre ou dans les injonctions moralisatrices. On est là dans une mouvance plus libre et qui peut être donner de l'espoir et de la vie.
Parce que c'est un peu le constat aussi que beaucoup font depuis l'année écoulée, qui a été une année très très environnement, avec les manifs, avec de nombreuses émissions, de nombreux livres. Enfin, il y a vraiment en masse, l'environnement est devenu très productif, on peut dire, y compris par les messages et voire même les injonctions. On peut comprendre aujourd'hui que le public, quel qu'il soit, soit un petit peu lassé aussi de un peu de ces leçons données et que là, l'humour, c'est aussi une fenêtre et une autre arme, même si c'est peut-être pas le mot à utiliser, mais l'outil qui peut faire avancer sans que les gens soient un petit peu probablement dégoûtés par ces sujets environnementaux qui ont envahi nos quotidiens.
Oui, j'aime bien le mot, la notion de plaisir, non pas simplement parce que vous dites que les artistes, on est là pour en donner, mais parce que justement, je reviens à la première idée que j'avais au début, les gens n'ont pas tout le temps cherché à faire volontairement le mal, même si certains peut-être. Hein. Et donc, à une époque qui a commencé, je sais pas moi, en 1900, 1890, je sais pas quoi, on avait foi dans le progrès. Le progrès, c'était le plaisir. Hein. Vous aurez des aspirateurs, vous aurez des réfrigérateurs, vous aurez des voitures qui rouleront plus vite, etc. Donc ce qu'il faut, c'est trouver la même chose. Si on cesse de dire « vous n'aurez plus tout ce qui fait plaisir », maintenant vous n'aurez plus que des trucs qui vous emmerdent, on va pas vouloir aller vers là. Si vous dites « le changement de paradigme va vous donner de la bouffe qui est meilleure », bon ça on l'a quand même bien démontré avec le bio, etc. Mais aussi c'est plus agréable un monde dans lequel on fait ceci, cela bien, alors là je peux avoir un peu d'espoir. Et croire que... Donc il faut dire ça de manière amusante. L'humour peut servir à se moquer de nous, vous dites. On est quand même con hein, de vouloir manger des fraises en hiver, etc. Ben, un dessin vous dit ça très vite. Si je vous le dis comme ça en face, vous n'allez pas être aimé. Hein. Si je vous le dis par un dessin, et à propos de
ça
moi,
passe mieux.
Ça passera. Voilà. Ouais. Et puis donc, redonner du plaisir peut redonner une certaine foi quand même un peu dans l'avenir.
En sachant qu'il faut quand même continuer à informer aussi, parce que Pierre Krall parle du bio, mais pas n'importe quel bio non plus, hein, Colline Serrault. Il y a aussi des circuits courts qui sont très bien et qui peuvent être une bonne façon d'aller chercher une alimentation autre. Voilà, il faut savoir aussi faire le tri, et là, pour le coup, l'information est nécessaire.
Oui, la capacité de se mettre à la place des autres. C'est pas évident, c'est pas facile. Si vous êtes quelqu'un qui gagnait, qui est une femme seule avec deux gosses et qui gagnait 1200 balles, quand on vous parle de bio, ça vous fait juste rigoler, quoi. Parce que de toute façon, le 20 du mois, vous avez déjà plus de sous. Donc, parlons aux gens de ce qu'ils peuvent comprendre, faire, et mettons-nous à leur place. Pour l'instant, cette société ne propose pas aux gens qui ont pas de sous une alternative écologique correcte. C'est ce que dit Vandana Shiva. Le début, la vraie démocratie, elle commence quand le plus pauvre d'entre nous a ce qu'il y a de meilleur dans son assiette. Et c'est pas non plus un truc, il s'agit pas de remplir son assiette de diamants, il s'agit de remplir de diamants de santé. Ça devrait être quand même le premier but d'une société, de maintenir tous ses enfants en santé, ses enfants et ses adultes. Ce qui d'ailleurs finit par être très productif. Parce que quand vous êtes dans des sociétés où tout le monde est malade, d'abord ça coûte une fortune, ce qui d'ailleurs fait plaisir aux labos pharmaceutiques en même temps, hein, mais ou dans une société où la moitié des cerveaux, comme par exemple les femmes, sont enfermées à la maison, ben vous êtes plus concurrentiel, vous êtes en pure décadence. Donc même sur le plan du pur intérêt bêta, c'est bête ce qu'ils font, quoi.
Alors la chanson joue un rôle aussi à ce niveau-là et sur le terrain de l'environnement. Pierre Kroll, vous avez fait un choix musical. C'est Raphaël que vous voulez nous faire écouter aujourd'hui, la chanson.
Bon, tout simplement parce que comme ça, les paroles continuent en radio, puisque la chanson, c'est
l'année la plus chaude.
L'année la plus chaude de tous les temps. J'ai lu encore hier ou avant-hier que le mois d'octobre qu'on vient de finir était le mois le plus chaud depuis qu'on les mesure. Donc maintenant, c'est tout le temps. On apprend ça en septembre, en octobre, l'année la plus chaude, etc. Donc j'ai trouvé que cette chanson continuait notre conversation, tout simplement.
Des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre, mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps.
C'est C'était Raphaël, l'année la plus chaude de tous les temps, le choix de Pierre Krall dans notre émission De Cause à Effet, dont c'est la suite bien sûr sur France Culture, émission consacrée aujourd'hui au monde des arts et de la création et au rôle joué notamment par nos deux invités en matière d'environnement, Colline Serrault, cinéaste, comédienne, clown, trapéziste, musicienne, auteur du livre Hashtag Colline Serrault, livre paru chez Actes Sud, et puis le dessinateur de presse et humoriste belge Pierre Krall, architecte de formation, licencié en sciences de l'environnement et auteur du livre Des signes qui ne trompent pas, livre édité aux Arènes. Mais sans plus attendre, place à notre partenaire média et au rédacteur en chef des pages Planète du journal Le Monde. Bonjour Simon Roger.
Bonjour à tous.
Vous avez certainement envie de poser énormément de questions à Colline Serrault et Pierre Krall, mais voilà, je vous laisse faire le choix dans votre besace. C'est à vous.
Bon ben, je rebondis déjà sur la chanson « L'année la plus chaude de tous les temps » et la crise climatique que nous traversons actuellement et pour longtemps malheureusement. J'en pense aussi à l'un des films de Colline Serrault, « La Belle Verte », qui peignait un peu une société égalitaire qui était en harmonie avec la nature, ce qui semble loin d'être la situation de la planète bleue sur laquelle nous vivons nous aujourd'hui. Donc la question que je voulais poser à vos invités, c'est donc face à cette crise climatique, écologique, et face aussi à l'inaction du politique pour justement pallier, pour gérer cette crise, est-ce qu'il ne faut pas finalement réinventer, réenchanter la démocratie? Et si oui, quels pourraient être les outils pour justement arriver à réinventer cette démocratie? Et j'ai notamment un exemple en tête, peut-être Colline Serrault voudra en parler, mais une expérience qui démarre et dont on verra les résultats plus tard, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Donc c'est 150 citoyens tirés au sort qui vont plancher pendant plusieurs semaines et qui sont censés nous aider collectivement à trouver des solutions à cette crise climatique.
Colline Serrault.
Je ne l'ai pas vu le film, mais je sais qu'il y a un film, par exemple, de Marie-Monique Robin qui va sortir, qui s'appelle Nouvelle Cordée, et qui parle d'une manière de faire l'entreprise autrement. C'est-à-dire qu'ils mettent leurs ressources ensemble, et chacun décide de quel boulot il va faire. Je trouve ça absolument génial. Bon. Mais je crois que c'est intéressant aussi d'essayer d'avoir une vision peut-être plus globale et plus internationale de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, enfin, moi j'ai voyagé, ben, beaucoup de gens, hein, en Inde et en Chine par exemple, ils sont 3 milliards, ils n'ont pas du tout l'intention d'arrêter de croître et de s'approcher d'un mode de vie qui est le nôtre depuis... et on ne va pas leur reprocher. Je veux dire que nous, on en profite grassement depuis 40 ans, avec les pauvres aussi, les pauvres n'en profitent pas autant, et on ne peut pas dire que les Indiens et les Chinois n'ont pas le droit d'avoir chacun leur bagnole comme ils ont envie de l'avoir.
Si ce n'est qu'ils commencent à acheter des terres aussi dans d'autres pays pour nourrir leur population.
Évidemment. Et donc les plus pauvres d'entre eux, c'est-à-dire l'Afrique, qui pourtant est le pays le plus riche de la planète, vont faire les frais de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on assiste à grande échelle, et on ne verra pas ça sur une seule génération, quand même, à une espèce de redistribution anthropique des richesses. C'est-à-dire qu'on va, nous, s'appauvrir pendant que eux vont s'enrichir. Et après tout, ce n'est pas tout mauvais, ça. Le problème, c'est le mur écologique. C'est-à-dire que, comme disent ceux qui sont pour la décroissance ou l'altercroissance, si on veut que ces populations aient tous leurs voitures, etc., etc., il n'y a pas les ressources sur la planète. Il en faut deux ou trois des planètes. Donc là, on va se trouver devant un mur, et c'est là que ça va être très dangereux, parce que ça va être des guerres, et que ça va être aussi des guerres civiles, probablement.
Vous pensez à Serge Latouche, qui prône la décroissance.
Hein. Oui, ce mouvement, cette pulsion des pays en développement, on ne pourra pas l'arrêter. Donc il va falloir vivre avec et comprendre comment nous vivre avec et accepter cette soi-disant décroissance qui devrait se transformer en une altercroissance beaucoup plus heureuse. Voilà. Et on pourrait le faire. Ça existe, cette croissance autre et heureuse.
Pierre Krall, une réaction à la question de Simon Roger sur ces questions-là, c'est-à-dire réinventer une démocratie peut-être plus participative, et puis la convention collective là que l'on voit, nous, en cours en France, en Belgique, qu'est-ce qui se passe?
J'ai pas les solutions à tout. Vous savez, quand une guerre, on l'appelle une guerre mondiale, c'est parce qu'à un moment, tout le monde profite de ce moment où tout le monde se fait la guerre pour faire la guerre à son voisin, pour résoudre ses problèmes de son côté, pour taper sur sa femme, pour n'importe quoi, puisque c'est le grand moment où tout le monde peut y aller. Bon, quand on fait la paix, c'est un peu la même chose. Tout le monde va recommencer à faire la paix avec son voisin, ou utiliser, comme vous disiez, les chars pour en faire des tracteurs. L'idée n'est pas trop mauvaise, hein, mais bon. Je fais partie des fondateurs en Belgique d'une fondation qui s'appelle Ceci n'est pas une crise. Vous connaissez ce tableau de Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Bon, est-ce que c'est une pipe puisque je la dessine, mais je vous dis que ça n'en est pas une. Enfin bon, on peut débattre de ça pendant des heures. C'est moi qui l'ai choisi. Le titre de cette fondation, Ceci n'est pas une crise, c'était par rapport surtout à la montée des populismes et des replis identitaires partout. C'est de dire, arrêtons de croire ceux qui nous disent qu'on vit une crise de quelque chose. C'est une mutation majeure. Quand vous avez une crise de foi, vous pensez que si vous buvez de l'eau, vous mettez au lit pendant deux jours, elle va passer, vous allez revenir à l'état l'état d'avant. Nous, on ne va jamais revenir à l'état d'avant. Comme vous le dites, pour la Chine, pour ce qu'on appelait le tiers-monde, etc., ils ne vont pas s'arrêter de faire des enfants, ils ne vont pas s'arrêter pour nous faire plaisir de déboiser si eux ont des trucs à construire. Donc, il va falloir faire avec quoi ? Je ne sais pas très bien. Et donc, le lien à la démocratie, c'est de ne pas commencer par écouter ceux qui vous disent le plus souvent « c'est une crise, on peut revenir à l'état d'avant ». C'est des gens qui vont vous dire « il faut se replier sur notre pays, d'abord entre Français, entre Belges, entre ceci, etc. » Et je pense que c'est pas vers là qu'on va. Et ces partis-là sont justement peu démocratiques. C'est une fausse démocratie, c'est vous faire croire, c'est vous mentir, quoi. Dans la démocratie, il y a une notion un peu quelque part de vérité, c'est le partage. Tout le monde doit savoir ce qui est vrai, pas tout le monde doit partager le même mensonge. Mais tant sur les méthodes elles-mêmes, je sais pas, je sais que c'est très souvent lié, j'ai été très proche du mouvement écolo et tout, je sais que c'est le partage de toutes les responsabilités, tout le monde devrait avoir un petit mandat quelque part, etc. Moi, je me permets d'avoir un peu de l'ironie, c'est mon métier aussi sur tout ça, c'est que moi, en réalité, moi, je n'en ai rien à foutre de m'occuper d'être adjoint au maire de quelque chose dans ma commune, hein. Je m'en fous complètement. Moi, la démocratie représentative, le principe ne me dérange pas. Ce que je voudrais, c'est être représenté par des gens qui sont intelligents, que j'ai choisis, etc. Donc, refonder la démocratie, certainement que c'est une bonne chose. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui a créé les problèmes dans lesquels on se trouve.
Simon Roger ?
Non, mais je pense qu'on pourrait faire un autre débat sur la notion de crise. Alors, c'est peut-être que le mot crise n'est pas le plus pertinent. En tout cas, pour revenir aux questions environnementales et écologiques, je crois qu'on se mettra d'accord sur la notion d'urgence. On est face à une urgence. Voilà. Comment, face à cette urgence, on peut effectivement les uns les autres faire évoluer. Donc, Colette Sirot parlait finalement des modes de vie, enfin, nos modes de vie, nous, en Occident, dans les pays occidentaux. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet de société.
Merci Simon Roger. On vous laisse continuer votre travail au sein de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde. Et bien sûr, on renverra via notre site, au site lemonde.fr et aux articles et dossiers constitués sur ces questions de démocratie réinventée et de convention collective. Merci à vous.
Merci, au revoir.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Colline Serrault, vous parliez de Vandana Shiva. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont un peu plus marqué ou qui vous ont amené à penser autrement, à regarder le monde autrement ?
Oui, Vandana en fait partie, mais et pourtant Vandana, c'est pas quelqu'un de très sympathique quand on la rencontre. Elle est du rail, hein, mais elle pense très bien, et c'est quelqu'un de formidable. Il n'y a pas qu'elle, il y a les Bourguignons, je pense. Il y a Philippe Desbrosses, qui est un type formidable, qui a le plus beau conservatoire de semences de France à la ferme de Sainte-Marthe, et qui travaille d'arrache-pied en ce moment sur cette plante qui s'appelle le lupin, et qui pourrait tout à fait remplacer le soja. C'est une plante qui a toujours existé en France, et qui est sans OGM, et qui peut nourrir très très bien le bétail français, qui est une plante formidable. Enfin, il y a des gens qui cherchent, et ces gens-là, moi, m'ont beaucoup influencé. Il y a des philosophes aussi, un type comme Jean-Claude Michéa qui pense la dégradation de la gauche. Il y a des féministes, il y a énormément de gens formidables qui pensent. Il y a un type, Jablonka, qui vient de...
Yvan Jablonka, l'historien.
Yvan Jablonka, qui est philosophe aussi, et qui vient de publier un bouquin qui s'appelle « Des hommes justes », qui réfléchit sur une nouvelle masculinité, un nouveau rapport entre les hommes et les femmes. C'est très important. C'est très important que dans toute cette bagarre, on se rassemble et non qu'on se sépare, mais qu'on se rassemble sur d'autres bases, des bases communes. C'est important aussi de chercher ce qui nous rassemble. Parce qu'on n'est tous pas d'accord sur... Il y en a qui disent qu'il faut que maintenant la démocratie fonctionne sur on élit des gens, on les élit pas, on les tire au sort. Pourquoi pas ? Il y a ceux qui revisitent les débuts du socialisme après la révolution russe, qui a été quand même une révolution. Les soviets, c'était des tout petites assemblées dans lesquelles tous les dirigeants étaient révocables à tout instant. C'est quand même un truc assez étonnant. Ça a été balayé par le stalinisme, ok. Mais il y a eu quand même un truc bien au départ. La Commune de Paris, qui a aussi inventé le CNR, le Comité National après la Résistance.
De la Résistance.
Tous ceux-là ont inventé des trucs formidables. On peut les reprendre, les remettre d'actualité. Ne pas faire un socialisme qui s'accommode sans arrêt de la plaie du capitalisme, en gardant ce qu'il peut y avoir de bien dans le capitalisme. Jamais j'étais le bébé avec l'eau du bain. Donc je pense qu'il y a énormément de solutions. Voilà. Mais je ne suis pas pessimiste ni optimiste, mais il y a des solutions plein.
Mais on sent qu'il y a cette question hein, du féminin, du masculin, du matriarcat qui vous travaille. Je ne sais pas si c'est le mot.
C'est pas moi que ça travaille. Hein. Non, excusez-moi, c'est la société que ça travaille.
C'est la société que ça travaille.
Je ne défends pas ma crèmerie. Hein.
Non, vous ne vous revendiquez pas féministe non plus. Hein, c'est autre chose. Je sais bien.
La société patriarcale, qui est le cadre général dans lequel on évolue, elle est à bout de souffle. Elle est caduque. Elle ne nous emmène qu'à la catastrophe. Donc, Il faut qu'on la repense autrement. Et il faut déjà la nommer, l'analyser, la penser, déjà. Parce qu'elle est planquée. Les lois les plus puissantes dans cette société sont celles qui sont non écrites. Hein. Le service des femmes. Le service des femmes, c'est un truc, c'est obligé, quoi. Hein, c'est obligé, vous êtes forcément dans le service sexuel, culinaire, affectif, maternel, etc. Et si vous ne l'êtes pas, vous êtes un monstre. Mais c'est écrit nulle part, ça. Hein. Et donc, c'est les lois vraiment très puissantes, ça. Et celles-ci, il faut les remettre en question, gentiment. Mais pas forcément toujours gentiment, d'ailleurs.
Mais je vous emmène sur ce terrain, c'est tout simplement parce que, pour beaucoup, le combat semble plus une préoccupation féminine, enfin, pour l'environnement, hein. Que masculine. Est-ce que on peut dire cela ou parce que c'est vrai que là voilà, Pierre Kroll est un homme, il y a des hommes bien évidemment qui sont engagés, Maxime de Rostolan, Gilles Boeuf, Cyril Dion, Hulot et d'autres, alors aux côtés de femmes, hein, Vandana Shiva, etc. Voilà, Colline Serrault, est-ce que dans cette question de la fin du patriarcat et du rôle aussi des femmes, est-ce que vous avez quand même le sentiment que ces questions environnement et le temps long sont plus facilement prises
au
sérieux
que la fonction même du patriarcat, il faut repartir sur les bases théoriques. Et de l'appropriation du vivant. Alors, à partir de là, vous n'êtes plus dans un paradigme qui respecte l'écologie, vous ne respectez pas la Terre. Elle vous appartient, vous pouvez la tuer. Elle vous appartient, vous pouvez la tuer comme femme aussi. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser tel ou tel groupe. Il y a énormément d'hommes qui, sans peut-être théoriser le patriarcat, mais en tout cas, par leur action, par leur pensée, par leur réflexion écologique, sans même peut-être le savoir, sont déjà dans la destruction de cette idéologie-là. Et c'est très bien. Donc, il y a vraiment beaucoup d'hommes qui sont écolos et qui sont formidables. Ça, c'est, il faut pas séparer les gens, il faut les rassembler.
Pierre Kroll.
Je suis heureux d'être d'accord avec Colline Serrault, parce que j'ai eu peur à un moment quand vous partiez justement sur le patriarcat. Je suis entièrement d'accord, quand je vous entends, je signe tout ce que vous dites. Mais et de terminer, comme vous dites, il ne faut pas monter les uns contre les autres.
Il y a l'yin et le yang, il faut un équilibre, il n'y en a pas pour l'instant.
Non, bien sûr, voilà, tout à fait.
Donc au moins,
100% d'accord.
Les choses sont rétablies. Mais c'était important effectivement de partir sur ces terrains-là parce que on entend aussi ces messages-là et qui peuvent un peu tromper justement l'ADN du message. En tout cas, on vous retrouve sur les mêmes terrains, c'est sûr, et dans vos films et dans vos livres, et l'un et l'autre, et avec aussi des solutions proposées. Parmi ces solutions, il y a le boycott, Colline Serrault, vous le dites clairement. Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter cet extrait de reportage diffusé sur France 3 le 10 octobre 2019.
Plus chaud. Opération coup de poing ce matin au cœur de Paris. Les écologistes du mouvement Extinction Rébellion bloquent la rue de Rivoli. Conséquence, la pagaille pour les automobilistes. Première grosse action pour Hugo, 22 ans, étudiant.
Bonjour, vous allez bien ?
Il tente de convaincre les Parisiens, timidement.
Tu t'en fous ? Ok. Bonne journée, au revoir. Du moment qu'on gêne personne, il n'y aura rien qui changera, donc voter ne suffira pas. Et ça ne suffit plus, il faut être complémentaire dans toutes les luttes. Donc à un moment, il faut faire chier les gens concrètement.
Une action de désobéissance civile qui divise les automobilistes.
Moi je comprends très bien, oui.
Même si vous êtes bloqué ?
Même si je suis bloqué, je vais me débloquer après. Hein.
Je comprends, ils peuvent revendiquer ce qu'ils veulent, mais pas rue de Rivoli. qu'ils aillent devant l'Elysée.
Nicolas, 26 ans, est ingénieur. Il milite sur ses jours de congé.
J'ai posé toute cette semaine pour pouvoir faire tout le blocage et toutes les actions, enfin le plus que je pouvais.
Le mouvement accueille aussi quelques retraités, comme Marie, 65 ans, de Bretagne. Aujourd'hui, elle supervise le stand restauration.
J'ai adoré les oiseaux, les coccinelles, grimper dans les arbres quand j'étais gamine. Je voudrais que mes petits-enfants connaissent la même chose.
Le boycott, la résistance civile, est-ce que selon vous, cela passera par là, c'est-à-dire que, Colline Serrault, vous le dites, ça ne peut pas se faire non plus sans violence, sans effondrement naturel, à l'image du mur de Berlin. Je reprends vos mots.
Les révolutions prennent toutes sortes de formes. En Angleterre, ça a été plutôt des évolutions relativement calmes. En France, on est passé par la décapitation et 100 ans, on a mis 100 ans hein, en France, entre 89 et le retour vraiment de la démocratie. C'est combien d'empereurs, mecs qui reviennent, tout ça, restauration, etc., diverses et variées. Donc, et puis, il y a des endroits où ça claque parce que vraiment, les plaques tectoniques se bagarrent trop. Le mur de Berlin, c'est comme un fruit qui tombe. À tout un moment, c'est plus possible, quoi. Donc, moi, je ne sais pas du tout comment ça va se passer.
Mais quand vous dites boycott, vous pensez à quoi, donc, concrètement ?
Le boycott, c'est-à-dire le boycott, c'est formidable comme arme parce que c'est une arme de destruction massive, effectivement, parce que comme ce système est entièrement fondé sur la consommation, si vous protestez dans la rue, c'est super, mais vous êtes en butte à une répression, ça se voit. Quand vous restez chez vous et que vous n'achetez pas, d'abord vous devenez riche. Devenez riche, n'achetez pas. Et ensuite, personne ne peut vous attaquer. Vous êtes inattaquable. Alors, je ne dis pas que tout le monde, devenez riche, n'achetez pas. Il y a aussi des gens qui juste n'ont même pas de quoi acheter à bouffer. Je veux dire, c'est pas si simple. Mais il y a plein de choses qu'on peut ne pas acheter et on se porte mieux. Et puis, vous avez vu sur l'Erica, il y a eu 15% de perte de profit pendant juste une semaine. Ils ont tout lâché, quoi. Mais ils ont tout lâché, la trouille qu'ils ont eue. Alors, il faut pas... Dans la loi, c'est interdit de nommer qu'est-ce qu'on boycotte. Ben, on va pas le nommer, le faire.
Pierre Kroll, le boycott, et puis donc une réaction peut-être à ces mouvements de jeunes aussi, hein, ces jeunes qui s'engagent plus volontiers et qui utilisent l'arme de la désobéissance civile aussi.
Le boycott, j'ai rien à rajouter, hein, c'est vrai, je l'ai lu dans le livre de Colin Serrault, je partage tout à fait son avis, c'est incroyable comment on n'arrive pas à dire, alors qu'on est une société de médias, etc., par les médias, on n'arrive pas à dire à chacun d'entre nous, ben, si on arrêtait de consommer ça, ah ben, c'est vrai qu'en 8 jours, il y a tout qui change, hein. Ça dit, il faudrait demander aux Chinois qu'ils arrêtent de croire que les cornes de rhinocéros, ça fait bander, et il y a beaucoup de choses qu'il faudrait boycotter par les autres. Enfin bon, c'est vrai que c'est une arme à notre portée théoriquement, et en même temps, elle n'est pas du tout, on n'arrive jamais à s'en servir. Ça, c'est étonnant. Sur Extinction Rébellion, j'ai une petite anecdote amusante. Vous savez que la Belgique, c'est encore une monarchie, hein. Nous avons un roi. Donc, on a une famille royale. Donc, on a des princesses. Et lors d'une récente manifestation assez violente d'Extinction Rébellion à Londres, la police a arrêté la princesse Esmeralda, qui est une princesse déjà un peu âgée, extrêmement élégante, extrêmement chic, avec son petit parler tout à fait de princesse remarquable, et qui a dit « Oui, moi je fais mon boulot aussi en manifestant contre ça, etc. » Alors, on en rit un peu, parce qu'on se dit « Enfin, la princesse Esmeralda, d'abord, elle n'a pas beaucoup de problèmes d'argent, elle doit avoir un très beau jardin, l'écologie au jour le jour, pour elle, ça doit être quelque chose de distrayant, etc. » Mais c'est très très bien, parce que quelque chose auquel je peux croire, c'est que des choses, vous connaissez le festival In et le festival Off à Avignon, hein, je ne dois pas dire ça à Colin Serrault, vous connaissez ce qu'on appelle mainstream ou pas, etc. Mais si tout ce qui paraît un peu marginal, comme ça, manger bio, local, devient mainstream, devient le truc général, ben vous aurez peut-être des rock'n'roll ou des nouveaux hippies à côté qui voudront un peu plus ou un peu moins, mais c'est au fond ça qu'on veut, c'est que la chose la plus banale, régulière pour tout le monde soit des choses qui sont bonne pour la terre. Donc voir qu'une princesse pleine d'argent et de bonne éducation se mêle à des manifestants, elle sera bientôt dans les, comment on les appelle, les blacks là qui cassent tout avec vos gilets jaunes.
Voilà.
Moi j'ai trouvé ça très 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 positif. J'attends que le roi de mon pays descende dans la rue. Lui, il n'a pas encore daigné aller même saluer, hein, les manifestants, les jeunes manifestants, parce que bon, il est roi, je sais pas, il a peur que ça fasse mal, mais quand il a toujours un sabre, hein, sur son uniforme. Enfin voilà, j'ai trouvé cette princesse belge qui se mouillait pour l'environnement tout à fait atypique et remarquable. Et ça fait un peu croire que ça peut bouger, quoi.
En sachant qu'effectivement, en Belgique, hein, les mouvements, les marches pour le climat des jeunes sont impressionnantes, hein, ces marches-là. Et ça draine beaucoup,
elles ont bien
beaucoup
marché. Quand je vous entends, la France est un pays très violent. Hein. Je pense que vous le savez, mais beaucoup de Français l'oublient parce que vous avez inventé les droits de l'homme, mais comme vous dites, en coupant je sais pas combien de têtes avant de signer le texte. Hein. Et donc nous, on est étonnés dans mon pays qui est pas un paradis du tout. Hein. Le temps qu'on peut perdre dans des querelles complètement stupides chez nous, c'est énorme. Mais pendant ce temps-là, on se tape pas beaucoup dessus. Et chaque fois qu'il y a une petite réforme de quelque chose en France, il faut d'abord qu'on brûle des bagnoles dans la rue et on va discuter après. En Belgique, on fait le contraire. On discute très 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 longtemps. Oui, et si on n'arrive à rien, on brûlera une demi-voiture.
On annonce.
Je pense que l'environnement pourrait peut-être l'aborder de cette manière-là, plutôt que se taper dessus, quoi.
En Belgique, on annonce par exemple la sortie du nucléaire. C'est établi dans la loi en 2003, confirmé en 2015. Et puis aujourd'hui, où en est-on?
C'est vrai que ça, c'est une très belle parabole, parce que l'arrivée d'écologistes pour la première fois au gouvernement fédéral, on a beaucoup de gouvernements en Belgique, au gouvernement fédéral, avec un qui était chargé de l'énergie, il s'appelait Olivier Deleuze, il a fait signer la sortie du nucléaire, quoi, en Belgique. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé après? Tous les lobbies et tous les autres partis n'en ont absolument rien fait, n'ont absolument pas préparé, ils n'ont pas mis deux éoliennes, hein. Donc effectivement, on n'y arrive pas. On peut pas sortir la Belgique demain du nucléaire d'un coup comme ça, parce qu'on a plus de chauffage cet hiver. Donc ça, c'est justement, nous renvoie au début de cette émission, il y a les climato-sceptiques, c'est une chose, mais il y a les cyniques qui vont tout faire pour que ce que nous voudrions, Colin et moi et beaucoup de gens, se passe. Ils vont tout faire pour que ça ne marche pas.
Colin Serrault, juste votre regard sur ces marches des jeunes.
D'abord, je trouve que la princesse, elle est super.
Esmeralda.
Esmeralda. Vive Esmeralda. J'ai beaucoup aimé le type qui dit « Oui, mais pas de rue de Rivoli tout de même. Oui. » Ben, qu'est-ce qu'il croit alors? Si on veut faire une manif, on va la faire dans un petit coin, là, à 500 bornes de Paris, ben non, on fait des manifs là où ça gêne, quand même.
Je vous coupe un dessin où Sarkozy court quand les gilets jaunes brûlaient le Fouquet's, il courait. Ah non, pas le Fouquet's, alors je suis avec vous. Dans ce cas-là, je suis avec vous.
Oui, oui. Ah oui, ça s'appelle un peu la grève, ça s'appelle une certaine résistance, quoi. Les résistants pendant la guerre, ils faisaient pas sauter, je sais pas moi, des boutons d'or, ils faisaient sauter les ponts, hein. C'était, il y avait quelques des dommages collatéraux. Quand on n'est plus écouté, quand la violence d'État, quand la violence sociétale est à l'œuvre quotidiennement pour les gens et qu'elle n'est pas nommée, parce que on parle de violence, gilets jaunes, oui. Enfin, ils ont été pas mal débordés par des gens qui sont peut-être mis là comme ça un petit peu par d'autres gens aussi. Hein. Peut-être que ça arrange certains gouvernants, etc., qui aient des violences. Mais en tout cas, eux, ils ont sur eux une violence quotidienne. Jamais on ne parle de cette violence. On parle de la violence des manifestations. Mais attendez, la violence sociale, elle est. C'est quoi? Ça veut dire je suis licencié, j'ai plus de maison, j'ai construit ma baraque. Toute ma vie, j'ai des traites, j'ai mon gosse qui va dans telle école et elle est super, j'ai mon médecin, j'ai ceci, ça, je dois tout... Alors, non mais c'est des violences inouïes que les gens supportent, inouïes. Alors, qu'ils soient un petit poil en colère, franchement, ça ne me dérange pas, moi.
Allez, en un mot, puisqu'on arrive au terme de notre émission, vos projets à venir juste sur ce terrain-là, environnement, concrètement, Pierre Krull, plein de dessins d'ici ce soir, c'est ça, à commettre?
D'ici ce soir, ça dépendra de l'actualité d'aujourd'hui, mais oui, encore des dessins sur ces questions-là. Je crois qu'on va encore en parler longtemps, et c'est très bien.
Et la scène?
Si je prends vraiment goût à parler sur scène, à faire avec des dessins, toujours avec des dessins, hein, je me sens pas un humoriste de texte comme ça, mais je le ferai peut-être sur l'environnement. Mais il faut laisser passer le moment présent parce que c'est une espèce de mode aussi autour de ça. Hein. Je crois qu'on continuera après, mais la mode, je sais pas ce qu'elle va devenir.
Céline Serrault, peut-être un projet avec Pierre Krull d'ailleurs. Je sais pas, sur scène.
Ça, je suis nul en trapèze, moi.
Moi, le trapèze, j'ai un petit peu arrêté maintenant. Ah. Oui, oui. Non, mais moi, je prépare un film, et puis j'ai ce livre auquel je tiens beaucoup, hashtag Colline Serrault, qui a été publié par Actes Sud et qui est un espèce d'ovni, qui est un bel objet avec des belles photos, et puis qui a une forme tout à fait neuve parce que c'est pas. Ils ont été vachement bien à Actes Sud parce qu'ils ont accepté cette forme. Hybride et libre.
Très iconoclaste et où vous nous révélez, vous nous donnez des clés de compréhension de beaucoup de choses, hein, de votre parcours, Colline Serrault. Et je rappelle aussi donc le titre du livre de Pierre Krull, Des signes qui ne trompent pas, édité aux Arènes.
Super, super bonne édition, les Arènes.
Ah oui, aussi. Merci à tous les deux. Comme toujours, toutes les informations, les compléments sont à votre disposition sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Réécoute, téléchargement. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur notre page Facebook et découvrir sur les sites aussi vos conseils de lecture, vos conseils de gestes. Enfin voilà, tout ce que vous nous donnez en plus pour les auditeurs. Dimanche prochain, avec la coalition hashtag Sauver le présent, un autre hashtag, hein, Colline Serrault, à savoir France Culture, Le Paris, et un Combini et Ouzbek Erika, nous nous intéresserons à la société connectée et aux effets des ondes électromagnétiques. Et l'émission sera podcastable dès le vendredi 15 novembre. Voilà, et dans un instant, vous poursuivez votre aventure sur France Culture, bien sûr. Suite de vos programmes avec Être et Savoir et Louise Touret.